écrit l'ICI avec le CIALA. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Daniel Bercheux.
Bonjour à toutes les deux. Fidèle au poste.
Eh oui.
Eh oui. Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Daniel Bercheux pour son roman « Double jeu meurtrier », roman noir, paru aux éditions novembre 7 en 2025. Alors Daniel, tu n'es pas un inconnu, hein, puis ni pour nous, ni pour nos auditeurs et auditrices, puisque nous t'avons déjà reçu en 2019 pour ton premier roman, qui s'appelait « Un amour infini », paru en 2018, en 2022 pour ton second roman « Les rêves ne disparaissent jamais », et en 2024 pour ton troisième roman qui s'intitulait « Rien n'est jamais écrit d'avance ». Donc, pour dire que tu es un habitué de la maison. En plus hein, de ces romans, tu écris aussi des nouvelles, de la littérature jeunesse, tu es auteur de slam, de poésie, que tu joues sur des scènes nantaises d'ailleurs. Hein. Donc, on l'a compris, tu écris et tu écris. Alors, pour commencer, on ne te demandera pas pourquoi tu écris, tu nous as déjà répondu à plusieurs reprises, mais peut-être plutôt pourquoi, puisque c'est le point de départ de ton roman, pourquoi s'appuyer sur un fait divers pour écrire un roman, et ce fait divers, et qu'est-ce qui t'a attiré ?
Ah, justement, parce que ce fait divers m'a interpellé, et je me suis dit, bêtement, une phrase toute simple, la vie de cette femme, c'est un vrai roman, parce que c'est à peine... imaginable ce qu'elle vit et ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit encore, parce que l'affaire dont je parle a été faite en 2015 et jugée en 2020. Donc, et j'ai pour habitude de partir un peu sur un matériau vivant, c'est-à-dire j'ai besoin d'un appui, c'est-à-dire de m'appuyer sur une certaine réalité. Et ensuite, eh bien, souvent, en deuxième partie de mes romans, je développe toute une partie fictionnelle, c'est-à-dire que je vais faire vivre mes héros tout en inventant la suite. Voilà.
Alors, dans son nouveau roman, Daniel Bercheux s'attaque au roman noir. Double jeu meurtrier. Michel, viticulteur, est retrouvé mort dans sa voiture par sa femme Liliane. De ce mariage improbable est né Lucas, 17 ans au moment des faits. Par quelques retours en arrière, nous en apprenons un peu plus sur la personnalité des protagonistes, notamment de Liliane, qui mène une double vie.
Alors, Daniel, dans ce roman, les personnages dont vient de parler Martine, notamment Liliane et Lucas, qui sont les personnages centraux, Michel aussi, mais il n'est plus, ont commis le pire, on peut dire ça. Hein. Et pourtant, tu en fais plutôt des personnages résilients, comme on dit aujourd'hui. Hein. Comment c'est un choix ? Tout à l'heure, tu disais personnages fictionnels par rapport au réel. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce qu'il y a... Tu avais un objectif, enfin voilà, peut-être c'est pourquoi cette option, je dirais.
Disons que j'aime bien que les héros se rétablissent dans leur vie. Même s'ils ont commis une faute grave, je pense que les deux personnages vont essayer de se racheter. Bien que Lucas ait subi cet événement, Liliane, en prison, c'est vrai qu'elle se rachète, non pas une virginité, mais elle se rachète par rapport à elle-même, par rapport à ce qu'elle veut devenir maintenant qu'elle a commis cet acte. C'est une sorte d'électrochoc, je dirais, cet événement. Et c'est pour ça qu'en prison, elle arrive à pas surmonter cette épreuve qui l'a amenée à 20 ans de prison, voire 25. Parce que bon, la réalité montre qu'elle a été en fait condamnée à 25 ans de prison. Et elle va avoir une nouvelle vie. Voilà, elle est encore en prison.
Pourtant, tu parles de cette femme comme d'une, je cite, hein,
oui,
à la page 35, comme d'une croqueuse d'hommes, séductrice, perverse, narcissique, manipulatrice. C'est quand même. Alors déjà, c'est beaucoup pour une seule femme. Et puis.
Oui, effectivement, elle a une double vie, elle a une double facette, et elle n'est pas heureuse en subissant ce mariage qu'elle n'a pas voulu avec Michel. Et en fait, elle subit les événements, et son seul échappatoire, c'est justement de mener cette double vie qui la conduira à supprimer son mari.
Oui, mais avoir une double vie, ça signifie pas qu'on est séductrice, mettons, mais perverse narcissique, manipulatrice.
Enfin, oui, alors perverse narcissique parce que justement, elle va réussir à manipuler son fils pour l'aider à commettre son forfait.
D'accord.
Ok.
Voilà, c'est dans ce sens-là. Et elle manipule surtout son fils.
Ah, d'accord. Okay. Parce que du coup.
Quand tu parles justement de nouvelle vie en prison, hein, donc tu évoques notamment l'écriture, hein, pour
d'un
Liliane,
journal,
un peu
journal,
comme
oui.
Voilà, un peu comme une dimension. Alors d'un journal, un peu comme une dimension exutoire. Hein. Est-ce que justement on peut attribuer cette qualité à l'écriture? Est-ce que coucher sur papier suffirait à changer de vie, ou est-ce que il y a quand même des choses un petit peu en plus pour que, je dirais, que la modification s'opère, hein.
Oui, parce que l'écriture peut faire du bien, c'est une vérité de la palisse ce que je dis, mais justement, elle tient son journal et elle écrit. Elle écrit beaucoup de lettres, elle écrit à son fils pour essayer de renouer avec son fils, qui n'ouvrira pas ses lettres, mais voilà, c'est sa manière justement de revivre une nouvelle vie en prison. D'accord. Peut-on parler de nouvelle vie? Et vous savez qu'il y a un prix Goncourt des prisonniers. Et ce qui m'a interpellé un jour en voyant un reportage justement sur des longues peines, beaucoup de gens en prison lisent beaucoup. Et lisent, et c'est une façon
de s'évader peut-être.
De s'évader, mais aussi d'avoir un rythme dans la journée, d'avoir une vie à peu près normale, ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et donc, y a des prisonniers, des prisonnières qui peuvent lire trois heures par jour des livres, et qui peuvent justement participer à des prix littéraires.
Est-ce qu'on pourrait émettre l'hypothèse que l'écriture, c'est aussi un outil de conscientisation, c'est-à-dire que d'actes posés, parce que la littérature en soi, poser les choses par écrit, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail un peu de métabolisation, de conscientisation des actes posés pour que ça puisse un peu changer, je dirais, le cours d'une vie?
Oui, un peu. Elle espère pouvoir changer le cours de cette vie. Son seul espoir, c'est de renouer avec ce fils, Lucas, qu'elle a entraîné dans cette galère. Elle sait qu'elle a quasiment perdu son fils, mais elle veut le retrouver à travers cette écriture, à travers une certaine de se refaire une certaine conscience, et qu'on ne la juge pas sur ce qu'elle a fait, mais sur ce qu'elle devient. Et elle a peu de gens pour voir cela, puisqu'elle ne reçoit pas de visite. Et elle va, dans le cours du roman, nouer une amitié, plus qu'une amitié, avec sa codétenue, qui est plus jeune qu'elle.
En revanche, Lucas, hein, dont on dit effectivement... alors, il a été plus que manipulé, parce qu'il est question d'emprise. Hein.
Oui.
Donc, lui ne va pas passer au-dessus de ça. La question autour de l'emprise, c'est justement quand on a vécu ce type de relation toxique, est-ce qu'il est imaginable qu'on puisse pardonner puisque c'est ce que cette femme, mère, recherche en fait.
Oui, elle recherche cela, mais Lucas va mener après cette épreuve son propre parcours, son road trip, et petit à petit, il va se reconstruire à travers ce voyage initiatique. Parce qu'au moment des faits, Lucas n'a que 16-17 ans, ce qui fait que c'est un jeune homme qui sort quasiment de l'adolescence. Il est en train, avec son père, de passer son permis de conduire. Et au moment des faits, c'est lui qui va, et ça c'est vrai, c'est lui qui va mettre le corps de son père dans son coffre. Ils vont à deux voitures rejoindre le hangar de Michel Cernin. Et il passe devant la gendarmerie et il fait un bras d'honneur à cette gendarmerie, à cette institution. C'est dire un peu l'état d'esprit. Il ne sait pas ce qu'il a fait, en fait. Je ne veux pas dire qu'il fait ça comme un jeu, mais voilà, il est sous emprise. Ce que sa mère veut lui faire faire, il le fait, sans chercher à comprendre.
Oui, alors on va d'abord faire une petite pause, on reparlera peut-être de Lucas après. Mm-hmm. Donc, Daniel a choisi Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2. Nous sommes en compagnie de Daniel Bercheux pour son roman « Double jeu meurtrier ».
Alors, effectivement, le thème, on a parlé du thème de l'emprise avec Lucas. Donc, lui, c'est pareil. Lucas, il va refaire une vie plutôt équilibrée.
Moi, j'avais quand même une petite question à propos de Lucas.
Je t'en prie. Que
à plusieurs reprises dans le livre, tu parles de victime. Et je veux bien que sa mère ait pas fait tout ce qu'il fallait, quoi. Enfin, il a 17 ans, c'est pas un enfant, quand même.
16 ans au moment des faits, oui. Et c'est quelqu'un d'immature quand même, Lucas.
Ouais.
Et il n'a pas fait des grandes études, j'insiste pas là-dessus. Mais enfin, voilà.
Est-ce qu'il faut avoir fait des grandes études?
Non, mais bon, il est.
Bon.
Il est. C'est quelqu'un de relativement simple, quoi. Qui n'a pas cette conscience. Et en fait, c'est tout un cheminement. Ça ne se fait pas en un jour.
Oui, c'est sûr.
Donc c'est tout un cheminement. Cette mère perverse va le monter petit à petit, qui n'est pas contre son père, qui n'est pas son géniteur. Et ça, elle va lui avouer comme un coup de massue.
Oui, c'est vrai.
Le dernier argument en disant, voilà, ton père que tu aimes, que tu crois qu'il est un bon père, il me bat, il me traite de tous les noms. Et lui, il ne voit rien de tout ça, mais il croit sa mère. Et donc, il veut défendre sa mère. Et
oui, je comprends. Mais alors, justement, à propos de Liliane, moi, il y a une question que je me suis posée en lisant le livre, c'est pourquoi elle ne divorce pas?
Ah, parce qu'elle ne veut pas, justement, séparer ce domaine familial, parce que tout vient de...
D'accord, donc en plus de tout ce que tu... Elle est intéressée, quoi.
Oui,
en
plus, voilà, ça la charge un peu plus.
Personnage charmant qui donne envie de qu'on la rencontre.
Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas abordé, c'est sa haine des hommes.
Mm-hmm.
En fait, Liliane a quand même subi le machisme des hommes. Elle a eu un amour de jeunesse, cet amour de jeunesse lui fait un enfant, et 3 mois après, elle se retrouve sans son amour, qui, quand il a su qu'elle était enceinte, se barre, comme beaucoup d'hommes dans cette génération. Et donc, elle se retrouve démunie et elle jette son dévolu sur Michel Cernin, le brave type, le brave gars, travailleur, bûcheur, qui va faire fructifier son domaine.
L'idée peut-être que développer aussi dans ce que tu dis, puis à travers le livre, c'est... Les choses n'arrivent jamais par hasard, c'est-à-dire qu'il y a des conditions, des circonstances. On n'est pas intrinsèquement destiné à poser des actes tels que ceux qui ont été posés par les personnages du roman. C'est aussi ça,
ce
travail.
Oui, bien sûr. Mais souvenez-vous d'affaires criminelles qui surprennent tout le monde, quoi. Quand Roman tue toute sa famille, ment à sa famille pendant 15 ans, qu'il le dit, qu'il est médecin, etc., tout le monde tombe des nues. Il y a d'autres cas là, qui ne viennent pas à l'esprit tout de suite. Mais voilà, et Emmanuel Carrière a fait un très beau livre sur cette affaire Roman. Mmh. En fait, les affaires sordides, c'est plus fort que le roman, quelquefois.
Oui, on dit la réalité dépasse souvent la fiction.
Voilà.
Hein, ce que disent les auteurs de films, les auteurs de livres.
Et puis, bon, je rajoute un élément qu'elle n'a pas vécu, mais pour renforcer un peu cet aspect haine des hommes, elle a subi pendant son adolescence, elle a été abusée par son oncle. Mmh. Voilà.
Donc des éléments destructeurs, en fait.
Voilà. Donc elle a intrinsèquement une haine des hommes.
Ok. Alors peut-être justement...
Et qui se cristallise sur son mari en fait.
Ouais, il en fait les frais quoi.
Voilà. Et cette double vie dont on a peu parlé, elle l'amène justement parce qu'elle a envie d'être une femme épanouie, belle, elle perd des kilos et elle se trouve belle et elle a envie de vivre avec son corps, sa sexualité comme elle l'entend et sans être jugée. Donc effectivement, elle a une double vie, personne ne le sait. Elle mène grand train, comme dirait l'autre, et ça fait jaser dans le village.
Elle fait payer, en fait, on pourrait dire ça, si on était...
Oui, hein, oui, oui.
Donc il y a une manière de faire payer de manière tout à fait concrète. Peut-être, tu disais effectivement, il y avait un pan qu'on n'a pas abordé, mais peut-être il y a d'autres choses. Alors moi, j'ai une autre question peut-être sur comment on mêle la fiction à la réalité. Hein, tu disais, j'aime bien partir du réel et en tant qu'auteur, justement, comment ça s'articule ce travail? Parce que, surtout sur un fait réel,
oui.
L'idée, c'est de pas... Alors, est-ce que l'idée, ou est-ce qu'il faut être attentif à rester vraisemblable, ou est-ce qu'on peut se laisser aller à ce dont on aurait envie
C'est un peu les deux, quoi. Mm. C'est-à-dire que, bon, d'abord, je le fais retourner chez sa grand-mère. C'est son seul point d'attache. Et petit à petit, forcément, quand on a 22 ans, qu'on vit avec une personne de 80, 75 ans, 75 ans, 80, on tourne vite en rond. Donc, automatiquement, il m'est venu à l'esprit de lui faire faire un road trip, quoi, un voyage initiatique. Et donc, petit à petit, il va cheminer, et moi, avec lui. Et je l'emmène dans des lieux que je connais, Marseille, il va travailler sur un bateau, je l'emmène sur Gênes, je l'emmène sur les grandes villes d'Italie que j'ai un peu...
Oui, on a un petit voyage touristique.
Voilà, un peu, qui est un peu le mien il y a une vingtaine d'années. Donc, effectivement, et il met les pieds à Naples, où il va retrouver... je dirais un second père, pas tout de suite, mais il va prouver que c'est quelqu'un qui travaille, qui peut avoir un statut, même dans un pays étranger.
Oui, parce que lui, il a sa vie à faire, de toute façon.
Il a, comme tu le dis, il a sa vie à faire. Et il trouve sur son chemin des gens, comme beaucoup d'entre nous, on arrive à avoir des gens qui sont des référents sur lesquels on peut s'appuyer. Et le père de le patron, son père de substitution, va devenir un peu son mentor et il ne va jamais le lâcher jusqu'à la fin.
Okay. Ça pourrait faire écho au titre de ton dernier roman, hein, « Rien n'est jamais écrit d'avance » en fait.
Effectivement.
Hein, si on s'amusait avec les titres. Donc, comment dirais-je, peut-être... Peut-être on a une lecture partielle et partiale du livre, donc forcément, mais peut-être qu'en plus de ce que tu as soulevé tout à l'heure sur la vie de Liliane, est-ce que toi, il y a peut-être des choses que tu as envie de porter dans ce livre qui nous ont échappé ou sur lesquelles on ne s'est pas appesanti ? Est-ce qu'il y a des aspects
Non, voilà. Vous avez abordé les principaux aspects de ce livre. Je veux dire qu'on a le droit à une seconde chance. Et la prison, c'est le seul moyen que la société a trouvé pour que les gens... Et c'est pas... Et je crois que 80% des personnes qui commettent des actes délictueux et qui se retrouvent en prison rechutent au bout de 5 ans quand ils sortent. Mmh. Donc, voilà, tout le monde n'a pas ce parcours en prison. Mmh. Mais je pense que les longues peines... on est obligé, entre guillemets, de faire quelque chose de sa vie. Sinon, on meurt à petit feu, on se tue en prison, quoi. Et donc, Liliane, elle va revivre sentimentalement quelque chose. Et Lucas, eh bien, tu disais pour la fiction comment j'ai avancé dans le roman. J'ai cheminé petit à petit. La fin, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas non plus la fin de son itinéraire. Et puis, un fait en entraîne un autre, je dirais. Et c'est comme ça que je travaille. Mais je partais d'une hypothèse, va-t-il ou non pardonner à sa mère ? Et ça, je n'avais pas encore jugé la chose. Et puis, au fil des événements, je dis, Lucas ne pardonnera jamais à cette mère. Qui réapparaît un petit peu à la fin du roman.
D'accord. Peut-être une question, alors une question en marge, mais pas complètement, puisqu'on a cité un peu ton éclectisme en écriture, hein, des romans, des nouvelles, littérature jeunesse, du slam. C'est des écritures complémentaires, ça mobilise de la même manière. Enfin, comment tous ces types d'écriture s'articulent ou pas, d'ailleurs on aurait envie de t'entendre là-dessus.
Ah. Oui, les nouvelles et les romans, oui, ça s'articule facilement. Le slam, c'est un autre exercice où on joue plus avec la sonorité des mots. Mais j'ai toujours été attiré par la poésie, par le fait de s'amuser avec les mots. Et de fil en aiguille, j'ai pris ce virus du slam. Alors, relier les trois univers, c'est... Disons que je privilégie quand même... L'écriture d'une histoire longue, j'en ai commencé une cinquième, et le slam, c'est un peu un amusement, je dirais.
Voilà. D'accord.
Et,
okay. Du coup,
et c'est aussi une manière de rencontrer d'autres personnes qui écrivent Et j'anime aussi des ateliers d'écriture. Et ces ateliers d'écriture m'enrichissent également parce que ceux qui écrivent comme ça, les écrivains et les écrivantes, ont parfois des textes merveilleux. J'ai fait un atelier sur les contes de Noël. Ça donnera lieu à un recueil si Noël m'était compté, avec un atelier qui s'appelle Au fil des mots, qui a lieu à Saint-Herblain, à la Crémetterie, au centre socioculturel, depuis une quinzaine d'années. Moi, je l'anime depuis 5 ans. Et c'est un vrai plaisir de voir aussi que d'autres personnes qui ne publient pas peuvent aussi prendre beaucoup de plaisir à écrire.
Bien sûr. Mais c'était, la question, c'était...
Oui, je me suis perdu, là.
Non, c'était pas perdu. Non, mais en même temps, je me disais, t'aurais pu avoir envie de faire du slam à Lucas dans le roman pour
Noué.
Mais ce n'était pas que ça. C'était vraiment savoir comment ça s'articulait.
Alors, dans l'autre roman, effectivement...
Comment ça se nourrit.
Il y avait une part de vérité quand la protagoniste Cécilia avait rencontré cet écrivain au cours d'activités de slam de poésie. Et ça, c'était pendant le Covid. Et là-dessus, je n'ai pas trahi la réalité, je dirais.
Ah, juste avant de se quitter, parce que ça va être là, est-ce que tu as une annonce à faire
Ça sera passé aussi, parce que l'émission va... Il y a quelques salons qui se profilent, Saint-Nazaire, Préfaille...
D'accord, donc tu y seras.
Oui,
d'accord.
Voilà. Quelques salons et dédicaces.
Ouais.
Dans des lieux un peu divers et variés, les espaces culturels de Leclerc, les librairies d'Hyper U, etc., etc.
Très bien.
Merci.
Eh bien, merci. Donc, on va se séparer avec Dominique A.
Ah oui.
Et il est encore question de lumière, hein, comme avec... Oui. Zao de Sagazan,
Et c'est encore un local.
Oui, effectivement.
Eh bien, oui, hein.
J'ai connu, pour la petite histoire, Dominica à ses débuts, puisqu'il habitait, ses parents habitaient à Orvault, là où je travaillais avant. Et il avait la trouille. Il avait publié son premier disque, Le courage des oiseaux, chez lui, dans sa petite chambre. Il avait bricolé ça. Dominica, j'adore.
D'accord. Donc, rendez-nous la lumière.
Oui. Il habite à 30 mois en plus. Je croise le temps.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché.